des images de Christ, prêché au Tabernacle Branham à Jeffersonville, Indiana, États-Unis d'Amérique du Nord, le 25 mai 1959. Pondre en un grand et glorieux lendemain, et nous anticipons ce jour où nous le verrons. Quelqu'un me demandait l'autre jour, « Pensez-vous, frère Branham, que la venue du Seigneur est proche ?» J'ai dit, « Certainement qu'elle l'est. » Il dit, « Mais ça fait si longtemps qu'on en entend parler. » J'ai répondu, « Mais un jour, tu en entendras parler pour la dernière fois. » Voyez, c'est exact. C'est qu'un de ces jours, il sera là. Et quand cela arrivera, je veux tout simplement être prêt. Dernièrement, nous parlions devant des hommes d'affaires, des avocats, et ainsi de suite, et puis l'un d'entre eux me demanda quel était mon principal objectif ici-bas. J'ai répondu, j'en ai un. Il dit, quel est-il? J'ai dit, sauver des âmes à Christ. C'est la seule chose que je... Ma plus grande ambition et unique ambition est de voir Jésus-Christ glorifié. Je vis dans ce but. Et je suis si heureux de notre témoignage que depuis 31 ans déjà, je l'ai humblement servi. Si je devais vivre 1 million d'années, si j'avais autant de temps à vivre, je voudrais vivre chaque minute pour lui. Et si je savais devoir être rejeté à la fin, néanmoins, c'est tout un privilège de vivre pour lui. Il est si réel et si bon. Je n'ai jamais rien découvert dans tous mes voyages ici-bas, quoi que ce soit qui puisse égaler cette fraternité que nous avons ensemble quand nous sommes seuls, lui et moi. Il n'y a pas de plus douce communion. L'amour de Christ est plus grand que l'amour envers quoi que ce soit, sa femme, ses enfants ou quoi que ce soit. C'est si bon. Ainsi, nous sommes enchantés de voir que ce réveil se poursuivra encore toute la semaine, et j'ai entendu dire que frère Parnell et d'autres y ont tenu de grandes prédications. Et nous croyons que durant ce réveil, un réveil est parfois mal compris. Certains pensent qu'un réveil a pour but d'amener de nouveaux membres à l'Église. Non, son résultat est cela, mais un réveil a pour but de raviver ce qui est déjà dans l'Église, voyez ? Je me suis tenu une fois sur le bord de la mer. Oh, je présume l'avoir déjà mentionné bien des fois, mais c'était il y a des années, et c'était la première fois que je voyais un... Eh bien, ce n'était pas la mer, c'était le lac Michigan. Hope et moi étions là-bas quand s'est tenue la conférence mondiale. Je crois que c'était en 1922, frère Egan, si je me souviens bien, que la conférence mondiale s'est tenue à Chicago. C'était la première fois que je voyais une vaste étendue d'eau. Aussi, je me tenais sur le rivage ce jour-là et je regardais le gonflement des vagues. C'était un matin de Pâques, nous avions eu le service du lever du soleil, et je regardais ces grandes vagues monter et descendre, et elles semblaient s'en donner à cœur joie. Et je me suis mis à penser, « Tu sais, il n'y a pas plus d'eau dans ce lac, se démenant ainsi, qu'il y en a quand il est parfaitement calme. C'est la même quantité d'eau, pas une goutte de plus. » Et j'ai pensé, pourquoi les vents viennent-ils secouer le lac comme cela? C'est pour en faire sortir toutes les ordures, vous voyez, cela rejette toutes les ordures sur la rive. Ensuite, je me suis dit que le lac était en train d'avoir son réveil, vous voyez, il s'agite et se démène et éclabousse jusqu'à ce que tous les déchets en sortent. C'est comme ça qu'est un réveil. Il nous fait venir à l'Esprit du Seigneur et nous réjouir et rendre droit ce qui est courbé et avoir une marche plus intime, une nouvelle consécration, une dédicace jusqu'à ce que toutes les choses et les craintes du monde soient toutes rejetées sur la rive. Vous voyez ? Ensuite, il y a un flot clair et limpide qui circule. Quand le vieux navire de la vie commence à s'agiter sur les eaux, on n'a pas tant à s'en faire, parce que le chemin est dégagé. C'est une bonne chose. Eh bien, ce soir, nous ne voudrions pas vous garder trop longtemps, étant donné que c'est lundi et que c'est notre premier soir de réveil en cours de la semaine. Et j'étais fier d'annoncer que le réveil se poursuivra. J'ai beaucoup d'amis. Je vois des frères ici, des personnes qui m'ont raconté les songes qu'ils avaient eus ces dernières semaines. Et le Seigneur m'a aidé dans l'interprétation de ces songes. Je ne sais pas qui est parmi nous, et s'il y a des étrangers ou quoi, mais le Seigneur Dieu donne encore l'interprétation des rêves. Ils sont exacts et parfaits, et il est le même Dieu des jours de Joseph, quand le roi eut des songes et qu'il les lui interpréta, et ils étaient exacts. Et quelques-uns de ces rêves se sont prolongés jusqu'à nos jours. Les résultats de ceux-ci sont encore en cours. Et Daniel, au jour de Nebuchadnetsar, et notre glorieux et humble pasteur nous disait tout à l'heure, cela l'intimidait tout simplement de me demander de donner ma participation aux prédications de cette semaine. Il a dit, « Je sais que tu es fatigué, frère Branham, mais on attendait et on se demandait. Oh, c'est gentil de votre part. » En passant, j'ai dû annuler les rencontres de Sydney en Australie parce qu'ils m'ont refusé le visa cette fois-ci, voyez, pour quitter les États à ce moment-ci. Une autre chose aussi, je ne pourrais y aller juste en ce temps-ci. Je ne sais pas quand je pourrais y aller, mais dès que je le pourrai. Mais je vais en profiter puisque l'on doit attendre un peu pour aller à Chicago, aux réunions de Chicago qui s'en viennent, car ils m'ont avisé de m'y rendre, mais étant donné que je ne savais pas quand je devais y être, j'étais supposé être aux îles Fidji où, m'a-t-on dit, il y avait beaucoup de gens rassemblés dans les îles, mais je n'y serai pas à cause des visas, mais je le pourrai bientôt. Ils attendent simplement. Donc je serai à Chicago. Jean, connais-tu les dates des rencontres? Y a-t-il quelqu'un qui sait quand cela a lieu? Moi, je ne le sais pas du tout. J'ai simplement vu dans le Herald of Faith que ça commencera, je crois, aux environs du 4 ou du 5 de ce mois-ci ou quelque chose comme cela. Ou la semaine prochaine, dans à peu près une semaine, 10 jours. Mes nerfs ont été mis à rudes épreuves. Aussi, je désire vos prières. Ce soir, j'ai choisi comme lecture de l'Écriture, si vous voulez suivre avec moi, dans Saint Jean, le 13e chapitre, une simple portion. Gardez vos Bibles proches, ceux qui aimeraient suivre avec moi pendant que nous lisons. Et tout de suite après le service de ce soir, il y aura une répétition d'un mariage ici. Aussitôt que l'on sera sorti, si nous nous dépêchons le plus possible, pas se ruer là, mais aussitôt que la place sera libre, ils pourront répéter une cérémonie de mariage. Et le mariage aura lieu ici demain soir. Deux de nos enfants de ce tabernacle vont se marier demain soir. Comme vous le savez tous, notre gentil frère David Woods mariera Marilyn Jeffries demain soir à ce tabernacle, juste avant les services. Aussi, ils vont répéter, ce sera un mariage officiel, un simple mariage officiel demain soir. Avant de lire sa parole, prions. Père Dieu, comme nous nous approchons avec révérence en ta présence, portant devant nous ce nom tout suffisant de Jésus, nous sommes certains que tu nous entendras, car il a dit, « Tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, je le ferai. » Pour cette raison, en tant que chrétiens, nous venons avec assurance à ton trône de grâce, sachant ceci, que si nos cœurs ne nous condamnent pas, alors nous savons que ce que nous demandons nous est accordé par Dieu. Nous prions que nos vies te seront si satisfaisantes qu'à travers la confession de nos fautes et ta justice pour nous pardonner, que ce soir nos désirs seront accomplis. Et Seigneur, notre plus grand désir est de voir ta grande grâce être déversée sur nous pour nous pardonner nos péchés et pour guérir les malades qui sont au milieu de nous, et que tu sauras nous parler par le moyen de la révélation ou de la prophétie, ou par ce que tu désirerais dire à ton Église. Puissent nos cœurs être des réceptacles à ton esprit. Puissions-nous être à ce point connectés à la ligne principale ce soir, que le Saint-Esprit pourra parler à nos cœurs pour en recevoir la gloire depuis sa présence. Maintenant, Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont malades et dans le besoin, car juste avant de m'avancer, notre secrétaire a déposé sur mon bureau une longue liste de noms de gens qui souffrent à travers cette nation, qui se meurent, des urgences écrites à l'encre rouge depuis ces 2 derniers jours seulement. Et comme je défilais cette liste de mon doigt jusqu'au bas de la page, ô Dieu, avec la présence de cette congrégation ce soir, j'implore ta grâce et ta miséricorde pour chacun d'eux. Tu les connais tous, et ce dont ils ont besoin, sans oublier ceux, Seigneur, qui sont convalescents, ceux qui sont là-bas dans les foyers pour personnes âgées et infirmes. Ô Seigneur Dieu, plusieurs de ceux-ci sont de tes enfants, lavés dans ton sang. Quand nous devenons vieux et que nos bien-aimés ont oublié, il reste une consolation, c'est que Dieu n'oublie jamais. Toutes nos actions sont enregistrées dans le livre de vie, et elles sont toujours en sa présence. Aussi, nous voulons plaider en leur faveur ce soir, Seigneur. Nous demandons que la miséricorde soit faite envers notre nation et envers ceux qui pêchent et qui agissent mal, et envers ceux qui traînent dans les barres et dans les différentes dispositions du péché. Seigneur, nous implorons ta grâce salvatrice. Nous prions que tu nous sustenteras à ce point que nos cœurs seront tellement épris d'amour pour toi que de te servir sera notre plus profond désir, ainsi que de voir ceux-ci sauvés. Bénis la lecture de la parole et tout ce que l'on fait. Humblement, nous courbons nos têtes en remerciement, car nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Tournons maintenant au livre de Saint Jean, le 13e chapitre. Nous en lirons une portion. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole. Je voudrais prendre comme texte ce soir, juste pour un court temps, le sujet des images de Christ. Et comme sujet, qu'est-ce que ceci serait? Qu'est-ce qu'il faut pour être un chrétien? Je sais que ce n'est pas du tout un texte évangélique, cependant c'est un texte évangélique puisque l'Église ne pourra jamais progresser avant qu'elle sache sur quel terrain elle est en train d'évoluer. Et je crois qu'avant qu'une personne puisse jamais aller de l'avant ou avoir une foi assurée, elle devra premièrement savoir où elle se tient et comment s'y tenir après avoir pris position. Je crois que c'est essentiel. Car vous ne pouvez pas plonger tête première avec foi dans quelque chose quand vous ne savez pas dans quoi vous plongez. Vous devez savoir. Et si notre foi est bien établie et dans la bonne position, elle donne une constante satisfaction. C'est tout comme il est dit d'une femme qui, une fois mariée, est si anxieuse d'enlacer son premier petit bébé qu'elle ne peut tout simplement pas attendre. Son anticipation est si grande. Mais derrière cela, il y a une crainte. Et si elle ne devient pas enceinte tout de suite, cela signifie pour elle qu'elle n'aura pas cet enfant. Ensuite, cela l'éloigne tout le temps de plus en plus. Ils ont un remède à cela de nos jours, et cela a fonctionné dans tous les âges. Si cette femme voit ou croit qu'elle ne va pas donner naissance à cet enfant, si elle prend la décision d'en adopter un, eh bien la première chose que vous saurez, c'est qu'elle deviendra enceinte du sien. Maintenant, cela a été prouvé 9 fois sur 10. Parce que cette pression qu'amène le doute, oh peut-être que je ne l'aurai pas, mais ça prend juste cette petite satisfaction, et c'est peut-être la façon de Dieu de l'amener dans la bonne atmosphère. Et ensuite elle aura son propre enfant, parce que cette peur et cette appréhension vont finalement la quitter. C'est comme cela que ça se passe avec les gens qui veulent obtenir la guérison, s'ils peuvent simplement avoir une toute petite évidence. Tout comme Élie quand il a dit, Géasi dit, « Je vois un nuage de la grandeur d'une main d'homme. » Élie reprit, « J'entends le bruit d'une forte pluie. » Il en vit l'évidence. C'est pourquoi souvent je dis aux gens, « Continuez, commencez à louer le Seigneur. » Voyez-vous, parce que ça, c'est l'enfant adoptif. Car cela se passe dans leur pensée jusqu'à ce que la guérison soit perçue dans leur âme. Ensuite, la foi s'en empare. Vous devez savoir ce que vous faites. Vous devez avoir foi en ce que vous faites. Par conséquent, bien souvent, on entend cette expression, Oh, mais qu'est-ce qu'un chrétien? Certains limitent cela au fait d'aller à l'église. D'autres diront qu'un chrétien, c'est un membre d'église, quelqu'un qui s'affilie à l'église. Je crois que tout chrétien devrait le faire, mais je ne crois pas que c'est là la chrétienté. Voyez, c'est ce qu'un chrétien fait après être devenu chrétien, mais ça ne veut pas dire que parce qu'il le fait, qu'il est chrétien. D'autres diront, non, c'est le fait d'aller à l'église et de servir une déclaration de credo et d'être loyal envers les enseignements qu'apporte son église. Il y en a d'autres qui diront que de porter un petit quelque chose sur eux, une petite croix ou autre chose, que c'est ça le signe d'un chrétien. Bon, et ensuite certains autres croient que s'ils allaient brûler une chandelle ou faire pénitence, que cela c'est d'être chrétien. S'ils étaient simplement immergés dans l'eau, ou s'ils faisaient quelques sacrifices, ou donnaient des biens à l'église, ou aidaient le voisin, ou achetaient du charbon à la veuve, ou des souliers à l'orphelin, ce sont les actions qu'un chrétien devrait faire. Mais cela ne fait pas d'eux pour autant des chrétiens. D'autres diront encore que si vous placez une image de Christ dans votre automobile ou sur votre mur, que cela est le signe d'un chrétien. Eh bien, toutes ces choses sont très bien, mais je ne crois pas que le fait de porter une image fait de vous un chrétien. Je crois que d'être une image fait de vous un chrétien. Ce n'est pas ce que nous montrons de l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur qui fait de nous ce que nous sommes. Donc, par conséquent, s'il est notre image, et que nous sommes à sa ressemblance et membres de son corps, nous devrions lui ressembler. Ensuite, nos vies devraient refléter l'image de Christ. Pas en nous joignant à l'église ou en portant des crucifixes ou dans nos émotions, mais cela devrait être dans la présence vivante du Dieu vivant se reflétant à travers nos vies. Il m'a été dit officiellement qu'avant l'époque des fournaises, qui enlèvent toute impureté de l'or, qui prend le fer de la pyrite, la pyrite ressemble tellement à l'or véritable qu'on l'a même surnommé l'or des fous. Et la façon dont ils extrayaient cela à l'extérieur, c'était en le martelant. Les Amérindiens avaient l'habitude de le faire. Et ce vieux Goldsmith utilisait aussi ce moyen. Le martelait, le tournait, le retournait, le martelait, jusqu'à ce que toutes les scories en soient sorties. Et la seule façon de savoir que c'était plus que de l'or, c'était quand le marteleur pouvait voir sa propre réflexion sur l'or. Celui qui le martelait pouvait se voir au point de pouvoir presque se raser dans sa réflexion sur l'or qu'il martelait. Et quand le Saint-Esprit de Dieu commence à nous marteler de son marteau de l'Évangile, jusqu'à ce que toutes les choses du monde en soient extraites et que nous pouvons refléter l'image du Seigneur Dieu, c'est là où je pense que nous devenons chrétiens. Car le mot chrétien signifie ressembler à Christ et le refléter. Maintenant, cela ne signifie pas que nous devons porter une longue barbe, comme les peintures des artistes nous le montrent, ni de laisser croître nos cheveux, comme les peintures des artistes nous le montrent, ou de porter une robe comme il en a porté une, car nous vivons en un autre jour. Nous n'avons pas à tout prix besoin de refléter son image physique, mais nous devons en nos âmes refléter son image esprit et sa manière de vivre. Je ne crois pas que la chrétienté consiste au fait de se joindre à des églises ou des credos. Je crois plutôt que c'est la réflexion de Jésus-Christ dans l'être humain, car nous sommes ses membres, les membres de son corps. Et l'Écriture dit que nous portons son image. Maintenant, quelle sorte d'image était-il ? Il n'est pas venu pour être un grand monsieur, bien qu'il l'eût été, mais il se présenta comme serviteur. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Notre lecture de ce soir reflète ce qu'il était. C'est ce qui le rend grand à mes yeux. Étant le Dieu même de l'éternité, le Dieu même qui créa le ciel et la terre. Toutefois, quand il vint, il prit la position la plus basse, la tâche la plus indésirable que quelqu'un puisse accomplir, en devenant un laveur de pieds, un laquais. Et de toutes les tâches rémunérées du monde oriental d'alors, le laveur de pieds était le moins bien payé de tous. En ces jours-là, les animaux passaient dans les allées, par les petits chemins qu'ils empruntaient, et le long des routes, l'odeur des animaux imprégnait les chemins, et la poussière se déposait sur leurs jambes et leurs pieds, et c'était une terrible odeur. Et dès que quelqu'un venait en visiter un autre, il ne se serait pas présenté ainsi, car il avait pris la senteur des chemins et de la poussière que l'on retrouve près des étables. Donc la première chose qu'il faisait, Il avait une petite baraque ou une cabine de réception plutôt, et le plus mal payé de la place, comme le serait l'esclave, restait là à laver les pieds de cet arrivant. Il lui passait une autre paire de souliers ou lui enfilait des sandales, et après l'avoir oint d'huile, il pouvait aller rejoindre son ami comme invité. Il se serait senti déplacé d'entrer avec cette odeur de crottin sur les pieds, en sueur et ainsi de suite. Et ce décrotteur de pieds était le moins bien payé de tous les hommes. Et le Dieu du ciel s'humilia pour être le plus grand de tous, devint le plus petit d'entre tous. Quelle différence d'avec le soi-disant reflet chrétien d'aujourd'hui. Quelle différence alors que le soi-disant chrétien veut être servi. Oh, il commence à croire qu'il est quelqu'un. Quelle différence il y a de le refléter. Il n'est jamais venu pour être servi, mais pour servir. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Et nous pouvons voir que la tendance moderne de la chrétienté est « je suis quelqu'un d'important », alors que vous n'êtes rien. Comme c'est faux, ça ne devrait pas être ainsi. Nous sommes en train de refléter la chrétienté de la mauvaise façon. Dieu ne veut pas que nous le reflétions de cette manière-là. Nous chantons ce chant « Être comme Jésus ». Mais quand on en arrive à devoir s'humilier et s'abaisser comme il l'a fait, alors là on trace une ligne. Et en ce faisant, les hommes se sont formés des dénominations pour pouvoir se séparer des autres, démontrant par là qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit comme l'Écriture le dit. Ils se séparent. Nous appartenons à une certaine église. C'est une plus grande église, c'est une meilleure église. Notre dénomination est une plus grande dénomination. Cela ne ressemble pas à Jésus. Cela ne reflète pas son amour et sa personnalité. Il est venu vers les plus démunis, les prostituées, les indigents, les bons à rien, et alla les trouver où ils étaient. C'est la vie chrétienne. C'est de cette façon que ça devrait se passer pour le refléter. Oh, je sais bien, les gens vont dire que ces jours-là sont passés, mais non, ils ne sont pas passés. Si Christ est encore Christ, si son esprit est encore le Saint-Esprit, si ce qui était en lui est en vous, cela vous fera aussi prendre cette position-là. Mais de nos jours, nous essayons de croire que nous sommes différents. Combien peu cela rejoint sa prière quand il pria « En ceci, tous connaîtront que nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres ». Mais plutôt que cela, nous luttons les uns contre les autres, nous nous méprisons les uns les autres, parce que l'on ne s'entend pas sur certains points, et on se met à accuser tout le monde, voyez, et malgré tout cela, prétendre être chrétien. Je connais des gens qui se disent remplis du Saint-Esprit, être coupables de tel comportement. Ils vont aller faire des déclarations réellement méchantes sur d'autres chrétiens, alors qu'ils ne devraient pas faire ces choses. Maintenant, frères et sœurs, quand nous avons ce genre d'esprit, nous devrions aussi bien avouer que nous ne sommes pas encore chrétiens. Peu importe combien nous le confessons, c'est ce que nous possédons qui compte. Nous ne pouvons pas être chrétiens et ne pas aimer tout le monde. Nous pouvons être en désaccord avec les gens, mais Jésus ne s'est pas élevé en disant « Je vous ai tous entendus, vous les pharisiens, et vous êtes tous bons pour l'enfer, et vous n'avez aucune chance à cause de ceci ou de cela, » ou parce que vous êtes pharisiens. » Mais il alla vers eux et il les servit et il les aida. Il fit tout ce qu'il pouvait pour les aider. Mais aujourd'hui, leur éducation et leur carte de membre, ainsi que leurs attachements aux choses du monde, ont bousculé l'Église à tel point que le côté intellectuel a pris la place du spirituel. Vous ne pouvez accéder à Dieu que par l'Esprit. Il n'y a qu'une façon à l'homme de parvenir à Dieu, et c'est par le Saint-Esprit. « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire premièrement. » Ce n'est rien de plus que la vérité, chrétien. Ce soir, nous devrions faire l'inventaire de ces choses dans notre cœur et en faire le compte. Pensons à ceci. Oh, certains d'entre nous pensent tout savoir. Il y en a une autre catégorie qui dit « Maintenant, attendez. » Ils aiment qu'on les appelle « docteur » et « saint-père » et ainsi de suite. Mais en sachant tout ceci, même si vous avez toute la connaissance, cela ne vous profitera rien, à moins que vous n'ayez un esprit d'amour en vous. La Bible a dit, « Quand j'aurai toute la connaissance, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Et à quoi bon notre connaissance si l'on dit, «
Je n'irai pas à un réveil comme celui-là, parce que ces gens-là ne sont pas éduqués, je ne m'associerai pas avec eux. Qu'importe s'ils ne savent pas leur ABC, s'ils connaissent Christ. Vous ne pouvez jamais être si médiocre. Puisse Dieu toujours garder cet esprit en moi. Peu importe combien bas ce qu'il croit, ce qu'il ne croit pas, de quel credo, couleur ou quoi, je veux lui tendre une main secourable. Certainement, je veux cet esprit en moi. Je ne voudrais pas en arriver à penser que je suis meilleur qu'un autre, me bomber le torse et dire « tout le monde se lève quand j'arrive » ou « j'ai la plus grande campagne de toutes ». Qui suis-je après tout? Mais de l'argile dont Dieu m'a fait, je veux m'humilier jusqu'à ce que sa vie se reflète en moi. Puissent tous les chrétiens se sentir ainsi. La connaissance ne nous mène nulle part. Par exemple, supposons une cage pleine de canaris. Disons que la cage a la dimension de ce tabernacle, et qu'un petit canari survolant la cage dise « Messieurs, je voudrais vous dire quelque chose. Il arrive que je suis juste un tout petit peu supérieur à vous tous. Voyez, je suis un canari qui connaît tous des êtres humains. Oh, je peux expliquer tout cela de long en large. J'ai vu les dames dans leur maison, j'ai vu les enfants jouer, je sais tout les concernant. Maintenant, vous tous, écoutez-moi. » Et tandis qu'il est en train de se gonfler la cervelle, un universitaire du collège de Princeton entre, doté d'un prestigieux sens du langage, et il commence à tenir une conversation avec ce petit canari, utilisant les mots les plus sophistiqués et parlant à ce petit oiseau canari. Je présume que le petit oiseau ait tourné sa tête de côté, qu'il ait écouté attentivement, mais il ne sait pas du tout de quoi il parle. Bien qu'il puisse l'entendre, bien qu'il puisse le voir, mais à quoi sert sa connaissance? À rien, parce qu'il ne comprend pas de quoi parle l'homme. Pourquoi? Parce qu'il a un cerveau de canari. Il n'a pas un cerveau d'humain. Il comprend seulement comme les canaris comprennent. Et c'est comme cela qu'est l'être humain. Je me moque de votre intelligence. Nous n'avons encore que des cerveaux de canaris, parce que nous ne sommes que des humains. Dieu est connu par l'Esprit et par la révélation par le Saint-Esprit. Nous ne pourrons jamais le comprendre par l'intelligence. Vous pourriez discuter et tenir de ces réunions intellectuelles et psychologiques autant que vous le voudrez, et les gens ne connaîtront jamais Dieu. Ils ne le pourront pas. Vous pourriez expliquer et dire que les gens doivent tendre l'autre joue et que ce n'est pas démodé, mais c'est un homme qui reflète Christ dans sa vie, un homme humble, un homme qui marche avec Dieu, agira comme Jésus. Mais voyez-vous, quoi qu'il pensait pouvoir comprendre, le petit oiseau ne le pouvait pas parce qu'il n'est pas fait pour cela. Son intelligence ne se comparera pas à l'intelligence de cet étudiant futé, pas plus que notre intelligence ne sera jamais égalée Dieu. Comment notre petite pensée limitée pourrait-elle se comparer à la pensée infinie de Dieu? La pensée infinie de Dieu est tellement supérieure à l'intelligence humaine qu'elle n'apparaît même pas. La seule façon qu'aurait pu avoir cet oiseau de comprendre ce que l'homme était en train de lui expliquer aurait été de s'y soumettre et de l'accepter et de faire ce que l'homme lui demandait de faire. C'est la seule façon de connaître Dieu, c'est de suivre la conduite du Saint-Esprit. C'est démodé, mais c'est le programme de Dieu. Cela a toujours été le programme de Dieu et ce sera toujours le programme de Dieu. Ce n'est ni par la puissance ni par la force. « Mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. » C'est de là que ça vient. Longfellow a déjà dit, « Le chemin du succès est de trouver la cause louable de la discussion. » Une cause louable qui a été discutée, et ensuite, tenez-vous-y, certainement. Un sujet a été discuté, bien que rejeté par la science, mais ce sujet est digne d'attention, alors tenez-vous-y. Savez-vous qu'en 1872, l'Association médicale des États-Unis n'a plus accepté les baignoires. Ils ont dit qu'elles étaient absolument malsaines et qu'elles propageaient les maladies. Les baignoires, ils ont finalement compris. Et cet évangile démodé dont nous parlons, lavé dans le sang de l'agneau, ça peut sembler démodé, mais ils devront y venir tôt ou tard. C'est une cause digne d'attention. Tenez-vous-y de toutes vos forces. C'est un lavage par le sang qui purifie entièrement un homme, pas en sortant boire et fumer, flirter tout en se disant chrétien, pour la simple et unique raison que vous appartenez à une église. C'est ce pur Saint-Esprit dans une vie humaine qui reflète Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est la raison pour laquelle les gens rejettent la nouvelle naissance. Oh, bien sûr, ils ont ce qu'ils appellent la nouvelle naissance par une poignée de main avec le pasteur, mais ce n'est pas une naissance. La raison pour laquelle ils ne l'accepteront pas, c'est pourquoi ils vont joindre des églises, parce qu'ils peuvent y venir d'une façon intellectuelle. Dieu a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Peu importe combien intellectuel vous pouvez être, ou quel bon chrétien vous prétendez être, vous devez naître de nouveau. Vous dites, donc frère Branham, je devrais joindre une petite mission quelque part. C'est pas cela. Cela signifie que vous devez recevoir la nouvelle naissance. Vous devez naître de nouveau. C'est un auditoire mixte, mais je vais dire quelque chose. Qu'est-ce qu'une naissance? Si cette naissance se produit sur un tapis de paille, ou sur le plancher, ou dans un hôpital, où les chambres sont peintes en rose, ou de quelque façon que ce soit, c'est un gâchis de prime abord. C'est exact. Et c'est comme ça qu'est la nouvelle naissance. C'est un beau gâchis, peu importe comment cela se présente. Mais cela produit la vie. Amen. Cela produit la vie. Quelle sorte de vie? Une vie de service, où vous vous humiliez, où vous renoncez à vous-même. C'est le genre de vie que cela produit. Ah, ils disent, mais je l'ai vu pleurer à l'autel et se lamenter. C'est sûr, il vient de naître. Ça a l'air d'un beau gâchis, mais peu m'importe où cela se passe. Vous pourriez avoir le visage tout mouillé de larmes, les yeux rouges et les mains écorchées d'avoir frappé sur l'autel. Mais c'est une naissance. Cela a eu un effet sur vous. Cela fait de vous un serviteur. Cela enlève l'orgueil de vous. Cela crée une image, façonne une nouvelle vie, une nouvelle création. Vous pouvez être tout amoché quand vous vous relevez, mais vous êtes né de nouveau. Peu importe l'endroit, cela forme une nouvelle vie. Cela apporte une nouvelle image vivante. Cela fait de vous un serviteur. Désormais, vous voulez servir. Jésus veut que nous nous aidions, que nous nous aimions. Comme nous nous servons les uns les autres, nous le servons. Maintenant, rappelez-vous de ceci, ce sont les malades seulement qui ont besoin d'attention, de service. Seulement les malades qui demandent de l'attention. Quand vous voyez un prédicateur, et devrais-je ne pas limiter ceci au prédicateur seulement, mais je vais l'appliquer à chaque membre d'église qui exige l'attention. Je suis quelqu'un, moi. Rappelez-vous simplement que c'est une personne malade spirituellement. Elle demande de l'attention. Ils ont besoin de l'attention de l'Esprit de Dieu qui leur donnerait quelque chose qui les viderait de cette attitude et les guérirait de leur égoïsme et de leurs idées de grandeur et de ce grand moi et petit toi. Le Saint-Esprit nous fait tous les mêmes. Il y a trop de maladies spirituelles, d'anémiques. Vous savez ce que c'est que l'anémie? C'est quelqu'un qui n'a plus de sang. Ils marchent bizarrement. Ils sont tout à l'envers tout le temps. C'est bien là le problème avec beaucoup de nos membres d'église. Aujourd'hui, ils sont anémiques. Ils ont besoin d'une transfusion de sang du calvaire qui leur donnerait un riche sang royal, qui les ferait marcher à la manière démodée du Saint-Esprit, taillé à la manière de Dieu. Cela leur donnerait une raison de vivre, leur donnerait une confiance qui les ferait marcher selon l'image de leur Seigneur. Pour ma part, si j'avais un choix à faire, j'aimerais être ce qu'il était. Il est venu pour être un berger et il était un berger. Le berger, c'est celui qui va vers les brebis. Je ne pense pas qu'on ait sur le mur cette remarquable peinture, mais assis dans ma chambre, je la regardais. Je ne peux tout simplement pas me rappeler du nom de l'artiste en ce moment, mais quand il perdit cette petite brebis noire et qu'il laissa les 99 autres à la recherche de celle-là, que fit-il? Il erra dans le désert. Il se blessa sur les épines, repoussa les dangereux rôdeurs nocturnes, jusqu'à ce que finalement, tout au fond du versant de la montagne, accroché à un buisson, risquant sa propre vie, il rejoignit le pauvre petit pour l'en sortir de sa condition rétrograde. Ensuite, il l'amène à lui, et puis un autre artiste a peint la scène de ce berger ramenant la brebis à la bergerie. Maintenant, il semble que le berger va juste prendre la brebis par-dessous et la ramener comme cela. Mais avez-vous remarqué comment l'esprit s'est emparé du pinceau de l'artiste? Il ne l'a pas pris sous son bras, il l'a posé sur ses épaules. Là, j'aimerais vous faire remarquer l'attention que porte le berger envers sa brebis. Maintenant, quand Jésus chassait les démons, il a dit qu'il les chassait par le doigt de Dieu. Maintenant, si un démon vous ennuie, la seule chose qu'il suffit à Dieu, c'est si peu pour lui qu'il n'a qu'à lever son doigt et le chasser. Mais quand une brebis rentre à la maison, quelle est la partie la plus forte de l'homme? Ses épaules. Avez-vous remarqué que ce sont toujours ses épaules qui sont les plus larges? Où charge-t-il les poids les plus lourds? Sur ses épaules. Où la brebis est-elle le plus en sécurité? C'est si elle est sur ses épaules. Aussi prend-il la brebis, la dépose sur ses épaules et revient gentiment avec elle. Toutes les puissances de Dieu enveloppent ce petit perdu et le ramènent à la maison. Mais un démon est si facilement chassé par son droit. Il est un berger. Un berger doit errer lui-même pour trouver le perdu. Et un bon pasteur est un berger. À vrai dire, le mot pasteur signifie berger. Et parfois dans l'église, une petite secte, un petit clan se lèvera, une partie s'en ira dans ce sens, l'autre partie dans l'autre. Un vrai bon berger ira avec ce clan. Pour faire quoi? Pour le ramener. Un vrai bon berger, qu'est-ce qu'il fait? Il se fera errant. Pour faire quoi? Pour ramener le perdu. Qu'est-il en train de faire? Il est en train de refléter l'image du bon berger, essayant de ramener cette âme à nouveau. Même s'ils ont bifurqué sur une autre route, frère, comme s'ils allaient renverser le monde en l'espace d'une nuit, ce pasteur ira les rejoindre afin de les ramener à nouveau, les gagner sur cette route à nouveau. C'est là un bon berger. Il reflète l'image de Jésus. Frère, je sais qu'on appelle cela de l'hérésie, qu'on appelle cela du fanatisme, mais si j'avais un choix à faire ce soir, mon choix se voudrait d'être comme Jésus. Je veux cela plus que toutes autres choses dans ma vie, de refléter l'image du Seigneur Jésus. Ma vie, après demain soir, après le mariage, je m'en irai au désert. Je compte y aller parce que, tout au fond de mon âme, je sens que j'ai besoin d'une marche étroite avec Dieu, plus que ce que je ne veux pas simplement marcher. J'essaye de bien marcher devant lui, mais je veux avoir une marche plus étroite avec lui. Tandis que le tabernacle Branham a un réveil, j'en veux un pour moi-même. Je ne veux pas que cela n'arrive qu'ici, je veux que cela se passe en moi. Je veux une marche plus intime. Je veux plus du Saint-Esprit en moi pour refléter Christ en moi. Je veux être comme lui. Je sais que tout véritable chrétien veut être comme lui. C'est le désir de mon cœur d'être comme Jésus. Je veux qu'il soit mon... Il est l'exemple de ce que je veux être. Voyez-vous? Ça prendra le Saint-Esprit pour faire cela. C'est la seule chose qui peut le faire. Les séminaires ne m'intéressent pas. Pas plus que ce que quelqu'un peut me dire, pas plus que d'embrasser un crucifix et le placer sur mon cœur en invoquant les morts. Je ne suis intéressé qu'à une seule chose, c'est d'avoir plus du Saint-Esprit pour prendre le dessus sur William Branham. Je ne suis pas intéressé à joindre une plus grande église que celle à laquelle j'appartiens. J'appartiens à la vraie église du Dieu vivant. Le premier-né, je suis né en elle et je veux plus du Saint-Esprit dans ma vie, pour refléter Christ que j'aime. Peu m'importe le niveau ou l'élévation que je dois atteindre pour y arriver. Peu m'importe si je dois venir ici ou aller ailleurs, être appelé fanatique, exalté. Quoi qu'il en soit, je veux plus de sa vie pour la refléter. Ce n'est pas le niveau que je dois atteindre qui m'intéresse, mais je suis intéressé dans le Saint-Esprit afin d'être plus le serviteur qu'il était. Il était le serviteur du Seigneur. Il n'est jamais venu pour être servi ou pour que l'on s'occupe de lui. Il ne lui est jamais arrivé d'être servi, mais pour servir. Il prit la place d'un serviteur. Si le roi du ciel a pu faire cela, et que nous sommes les membres de son corps, faisons tous de même. Non pas être différents, mais humilions-nous en sa présence. Peu importe ce que le monde en dit, ou que les intellectuels ne considèrent aucunement cela, recevons simplement plus du Saint-Esprit et soyons comme Jésus, humble, doux, simple, prenons sa place, et il prendra la vôtre au jugement. Courbons la tête juste un moment. Verrai-je des mains se lever ce soir dans cette salle, parmi les membres de cette église et des autres églises? Quand je dis cette église, je veux dire qu'il n'y a qu'une église. C'est l'église des nouveaux-nés, l'église des premiers-nés, l'église de Jésus-Christ, qui ne sont pas nés du monde, mais nés de l'Esprit de Dieu. Pourrais-je voir des mains se lever et dire, « Ô Dieu, rends-moi comme Jésus, façonne-moi au Seigneur, lave-moi, ô Dieu, que Dieu bénisse vos cœurs. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Seigneur, il y a des petits déséquilibres et des détours dans ma vie. » J'étais assis en train d'écouter frère Parnell et frère Neville, ainsi que d'autres bons ministres, et frère Collins, et beaucoup d'autres frères qui prêchent. J'ai écouté, mais ce soir, Seigneur, j'arrive à cette conclusion. Qu'était-il en train de me dire? Qu'ont-ils essayé de me faire comprendre? Je vois qu'ils essayaient de me faire devenir semblable à Jésus. Et par moi-même, je ne pourrais y arriver. Je suis comme le léopard qui essayerait d'enlever la tacheté de son poil en le léchant. Il ne deviendrait qu'un peu plus visible au monde. Seigneur, fais en sorte que je m'oublie moi-même. Même si aux yeux du monde, ça devait ressembler à un gâchis, peu m'importe, je veux être né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Et je veux, Seigneur, que tu me remplisses ce soir de ton Saint-Esprit. Lave-moi, sanctifie-moi, prends le sang de Jésus et sanctifie-moi, purifie-moi et remplis-moi jusqu'à ce que je me perde moi-même pour me retrouver, Seigneur, en toi. Ô Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre, qui a ressuscité le Seigneur Jésus d'entre les morts, l'a relevé par l'Esprit vivifiant du Dieu éternel, a relevé ce corps dans lequel tu habitais et l'a élevé jusqu'au trône du ciel. Il vint vers les plus dépravés de la terre, les prostituées, devint le serviteur le plus inconsidéré, descendit à la ville la plus dégradée, s'occupa des gens les plus dépourvus, reçut le nom le plus bas, devint le plus pauvre des pauvres. Encore est-il que la nature, les oiseaux ont leur nid et les renards leur tanière, mais le Fils de l'homme n'avait pas de place où reposer sa tête. Cependant, cet esprit vivifiant honora ce véritable serviteur, qui se fit lui-même serviteur, afin que nous puissions avoir un exemple à suivre. Il le fit sortir de la fosse de l'enfer, l'amena au tombeau et en fit sortir ce corps, et l'établit dans les cieux des cieux, jusqu'à ce qu'ils doivent se pencher pour regarder les cieux. Il lui donna un nom qui est au-dessus de tout nom qui se peut nommer dans le ciel et sur la terre. Seigneur, puissions-nous recevoir son esprit ce soir? Puisse cela être le besoin de chaque cœur ici. Tu as vu les mains qui se sont levées, Seigneur. Elles ne se sont pas levées pour réciter des credos ou pour opter pour des églises ou encore pour les combattre, mais pour devenir humbles de cœur, pour être transformés à l'image de Dieu. Puisse cela être accompli par le Saint-Esprit, Seigneur. Puisse le Saint-Esprit de Dieu nous rendre, non par la conception intellectuelle de ce que nous devrions être, pour ensuite agir comme cela, mais ça c'est l'enfant adoptif. Mais Seigneur, puisse cela vraiment se traduire par le Saint-Esprit et par une nouvelle naissance qui nous transformerait par le renouvellement de notre esprit pour nous rendre comme lui. Entends ma prière, Seigneur. C'est peu éloquent, je le sais, Seigneur. C'est peu éloquent. Je ne prie pas seulement pour ceux qui ont levé leurs mains, mais vois aussi que ma main s'est levée. Rends-moi comme lui. Dieu, peu importe ce que tu devras me faire, à quel niveau je devrais m'élever, rends-moi comme lui. Je veux être comme Jésus dans mon cœur. Accorde-le, Seigneur, et pas seulement à moi, mais que tous ici ce soir y parviennent. Accorde-le, Père, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. L'adhésion à l'Église est très bien. Je n'ai rien contre cela ou pour ces choses-là. Mes frères, être chrétien signifie être semblable à l'image de Christ. Nous voulons être des images vivantes, non pas porter une image, mais être une image du Seigneur Jésus. Maintenant, j'aimerais que vous m'aidiez à chanter un petit chant. Je ne pense pas que je peux le chanter, mais je suis certain que tous vous le pouvez. Aidez-moi, être comme Jésus. Combien l'ont déjà entendu? Je sais que nous voulons tous être de cette façon. Aussi, chantons-lui ce chant. Je suis conscient que le grand Saint-Esprit est ici. on ne pourrait se cacher. David a dit, si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Il se trouvera partout, aussi est-il ici ce soir. Il connaît tout mouvement, toute action, tout ce que nous faisons, chaque regard, chaque pensée, il sait tout cela. Ne le croyez-vous pas? Aussi, être comme Jésus, sur terre il me tarde d'être comme lui. À travers le voyage à la vie, de la terre à la gloire, je ne demande qu'à être comme lui. N'aimez-vous pas cela? À la grange de Bethléem survint un étranger. Sur terre il me tarde d'être comme lui. À travers le voyage à la vie, de la terre à la gloire, je ne demande qu'à être comme lui. Savez-vous ce à quoi je suis en train de penser? Hier j'ai sorti le grand livre de l'Église. Je ne m'y étais pas référé. À vrai dire, c'était la première fois que je le consultais. J'en avais besoin. Quand l'Église a été instituée, le nom du frère Steward y était. Celui de frère George G. Ark, frère Weber, tous ces noms-là. Je les voyais dans une petite classe d'école. J'ai vu une offrande totalisant 1,60$ provenant des 5 classes de ce tabernacle. 1,60$ d'une centaine de personnes ici. Ensuite, j'ai regardé la charte qu'on a actuellement, et là, j'ai pensé, beaucoup n'y sont plus. J'ai vu frère Frank Broy, c'est mon beau-père. J'ai vu tous ces anciens, Madame Weber, tous ces anciens. Ils ont tous monté l'échelle qui mène là-haut. Ils sont tous partis. Je me souviens quand nous nous rassemblions ici. J'ai pensé, Seigneur Dieu, notre église peut sembler un peu plus belle, et nous pensons en construire une. Mais Seigneur, nous aimes-tu plus maintenant qu'autrefois? Non, je ne pense pas. Quand nous nous tenions ici à chanter, tout mon désir, c'est d'être comme lui, à travers le voyage et la vie. Je revois ce bon vieux George avec son col de chemise ouvert comme cela et la sueur coulant sur son corps, s'éventant de son mouchoir du bout de ses doigts, et je revois ses saints visages là à l'arrière, pleurant les mains levées. Des prédicateurs s'avançaient dans la place disant, « Garçon, comment amènes-tu les gens à l'unisson comme cela ?» Je répondais que je n'avais rien à faire en cela. Ils étaient formés et transformés à l'image de Dieu, là sur un vieux banc poussiéreux, là même où ils trouvaient Christ dans leur cœur. Quelle douceur que ce Sauveur! Toute la soirée, ces prières montaient constamment, et qui parfois on allait prier chez d'autres, et on revenait à la maison à la tombée de la nuit, on priait toute la nuit. On ne retrouve plus cette sincérité. C'est comme si tous en étaient allés. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Revenons à ce premier amour que nous avions. Juste être comme Jésus, être comme Jésus. Sur terre, il me tarde d'être comme lui. À travers le voyage de la vie, de la terre à la gloire, je ne demande qu'à être comme lui. Le chanteriez-vous? Chantons-le de tout notre cœur, avec vos mains levées. Juste être comme Jésus, être comme Jésus. Sur terre, il me tarde d'être comme lui. À travers le voyage de la vie, je ne demande qu'à être comme lui. Le voulez-vous réellement? Dites Amen. Oh, n'est-ce pas un doux esprit? Je préférerais ceci à toute autre chose ici-bas. Prenez tout ce qui est du monde et de ses caprices. Tous vos intellectuels, tous vos docteurs, rabbins, évêques, saints-pères, donnez-moi Jésus. C'est exact. Laissez-moi juste l'avoir de cette façon démodée. Je le sens tout au fond de mon cœur. Et surveillant ma vie, et de voir que mes désirs sont de le servir, humblement, en douceur et en simplicité, c'est ce qu'il nous faut, les amis. C'est Jésus. C'est le Jésus de la Bible. Pas un Jésus de l'intellect, pas un Jésus de l'âme. Il est ici ce soir. Combien sont malades et dans le besoin? Levez la main. Vous avez besoin de Christ, vous êtes malade, vous voulez que l'on prie pour vous. Levez haut la main, afin que je puisse voir qui vous êtes. Combien ont à cœur de prier pour quelqu'un de malade? Laissez-moi voir vos mains. Très bien, il y en a quelques-uns. Combien croient que Jésus est toujours le même? Nous n'avons pas distribué les cartes de prière. Croyez-vous que Jésus, notre Sauveur, peut venir vers nous ce soir? Et si nous chantons, et là je parle de refléter son image, que ferait-il s'il se tenait ici? Croyez-vous qu'il ferait comme il l'a fait dans Jean 4, où il vit la femme au puits et lui dit tout ce qu'il y avait dans son cœur, lui a expliqué, lui a dit, et elle reconnut qu'il était le Messie? Croyez-vous cela? Croyez-vous que ce même Jésus, qui est souverain sacrificateur dans la main de Dieu, croyez-vous que ce même Jésus, ce soir, qui un jour, il n'y avait pas de carte de prière, mais il y avait une petite femme qui souffrait d'une perte de sang, elle se fraya un chemin dans la foule, jusqu'à ce qu'elle parvienne à toucher son vêtement, s'arrêta et s'assit. Et Jésus se retourna et dit, « Qui m'a touché ?» Croyez-vous que Jésus est toujours le même Jésus? Et le désir de son cœur, voyez, elle était effrayée, elle se retira et s'assit. Elle attendit, et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Et Pierre, l'apôtre, le reprit, disant, « Seigneur, mais tout le monde te touche !» Il dit, « Oui, mais c'était une touche différente, une force est sortie de moi, je l'ai sentie. » Et il regarda vers l'auditoire, jusqu'à ce qu'il aperçoive la petite femme, et il lui dit qu'elle souffrait d'une perte de sang, et que sa foi l'avait guérie. N'est-ce pas ce Jésus? Pourrions-nous nous humilier ce soir pour être transformés par le renouvellement de notre esprit, par le Saint-Esprit, afin de céder nos lèvres, nos yeux, votre foi et ma foi, pour qu'ils puissent se déplacer dans l'auditoire, se mouvoir en vous et se mouvoir en moi pour accomplir sa parole, qu'il est le souverain sacrificateur de notre confession? Il est assis à la droite de Dieu pour intercéder en faveur de notre confession. Il est aussi un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses, de la même manière qu'il l'a fait quand il était ici sur terre. Croyez-vous cela? Ce même Jésus. Combien ici ont un besoin personnel ou pour un autre? Parmi ceux que je ne connais pas, quelqu'un que vous savez que je ne sais pas ce qu'il a, je vais le dire d'une autre façon, je ne connais rien de vous, de votre requête, mais vous croyez que Jésus est ici pour se conformer lui-même, pour se rendre lui-même visible à nous, pour agir en nous de la même façon qu'il le fit quand il était en Jésus-Christ? Croyez-vous cela? Levez votre main. Tous ceux maintenant qui savent que je ne les connais pas, je ne vous connais pas, eh bien, voyons, nous pouvons nous concentrer en premier. Soyez respectueux. S'il le faisait, le croiriez-vous de tout votre cœur? Voyez, j'ai simplement senti que j'allais vous faire venir ici pour vous imposer les mains à vous tous y croyez. Je ne crois pas que je vais le faire. Je crois que Jésus est ici. Ce n'est pas qu'il faille porter une image de lui, mais d'être cette image. C'est le Jésus dont nous voulons être l'image, n'est-ce pas? Très bien. Maintenant, Seigneur Dieu, c'est ici une grande déclaration, mais c'est toi, Seigneur, qui as fait la promesse. Dès lors, il nous faut presser le pas. Maintenant, quelque chose doit être fait, même si on n'est pas une dénomination. Nous ne sommes qu'un humble petit troupeau de gens dépassés, et beaucoup d'entre nous ont été chassés de ces grandes églises intellectuelles. Si on y allait, on ne pourrait pas être aussi bien vêtu qu'eux, et autre chose, si on se lèverait sous l'effet de la bénédiction de l'Esprit en disant « Amen », comme il est dit dans les Écritures, on se ferait expulser tout de suite, et beaucoup ne seraient pas acceptés. Quelques-uns à cause de leur couleur, quelques-uns à cause de leur credo, quelques-uns parce qu'ils t'aiment tellement et qu'ils ont reçu l'Esprit, ils sont morts aux choses du monde et sont nés de nouveau. Mais ils ont reçu une nouvelle vie, une vie de serviteur. Mais nous sommes rassemblés ici, Seigneur, sous ce petit toit que tu nous as donné et que nous apprécions. Maintenant, Seigneur, qu'il soit connu que tu es Christ le même, et que ce grand celui dont nous parlons est ici présent pour se rendre manifeste et refaire ce qu'il a fait quand il était ici sur terre. Accorde-le, Père, afin qu'il puisse voir et croire, car je le demande au nom de Jésus. Amen. Croyez-vous que vous obtenez ce que vous demandez? Qu'est-ce que la foi? La foi est véridique. La foi est quelque chose que vous reconnaissez comme positif. La foi n'est pas quelque chose que vous supposez. La foi est ce que vous savez. Quelque chose qui s'est ancré dans votre âme. Je désirerais que ceux qui ne me connaissent pas et que je ne connais pas et qui ont une requête, un désir, lèvent la main à nouveau. J'aimerais juste avoir une idée d'ensemble. Toute personne ici que je ne connais pas, très bien, il y en a partout. Je n'aime pas m'adresser à des gens que je connais, parce que quelqu'un pourrait dire « il les connaît ». Mais il y a beaucoup de mains qui se sont levées que je ne connais pas. Donc, si le Seigneur Jésus voulait l'accorder, le reste d'entre vous croirait-il de tout leur cœur et accepterait-il leur guérison et quoi que ce soit d'autre, s'il vous plaît que nos cœurs demeurent en prière. Jésus enlève tous mes doutes. Et quoi? Jésus ne peut douter. Si nous sommes à son image, nous croyons. Il crut Dieu. Il vint faire la volonté de Dieu. Il ne se souciait pas de ce que les hommes disaient ou de ce que quiconque disait. Il vint faire une chose, être un serviteur pour son Père. Et son Père habitait en lui. Nous sommes venus pour être les serviteurs de Dieu. Le Saint-Esprit habite en nous. Nous voulons le servir. Je vais me concentrer sur une femme de couleur assise tout juste là. Je pense qu'il a levé la main, comme quoi je ne la connais pas. Les deux femmes là-bas, très bien, ni l'une ni l'autre de ces dames ne me connaît, et je ne les connais pas non plus, si c'est juste lever la main en signe que je ne vous connais pas. Levez la main, très bien, nous sommes étrangers l'un à l'autre. Dans l'Écriture dont on a parlé, et c'est la raison pour laquelle j'ai remarqué, vous êtes des gens de couleur, voyez, il y eut une femme une fois dans la Bible, au 4e chapitre de Saint Jean, Jésus vint au puits où se trouvait une femme samaritaine. Elle était de race différente, et Jésus lui parla juste quelques instants, le temps de trouver en elle ce qui n'allait pas, et lui dit ce qu'il en était. Et quand il lui parlait de son problème, elle dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. » Maintenant, nous savons que quand le Messie viendra, il nous dira ces choses. Mais il ne comprenait pas qui il était. « Eh bien, lui dit-elle, qui es-tu ? » Jésus répondit, « Je le suis, moi qui te parle. » Elle s'enfuit à la ville d'où elle était venue et dit, « Venez voir un homme qui m'a dit les choses que j'ai faites, qui m'a dit ce qui n'allait pas, n'est-ce pas le Messie ?»« Vous, mesdames, avez-vous déjà lu cela ?»« Certainement. » Saint Jean, le 4e chapitre. « Eh bien, si Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que vous vous tenez à 20 mètres d'ici, vous êtes assises plutôt, croyez-vous que ce même Jésus, parlant entre nous deux, pourrait me révéler ce que vous désirez depuis ici ? Si je vous ai dit la vérité, cette Bible étant vraie, il peut le faire, n'est-ce pas ? S'il le faisait, vous le croiriez ? La femme du bout, regardant vers moi de cette façon, souffre de maux de dos dont elle veut être guérie. C'est exactement cela, si c'est juste lever la main, la dame là-bas. Maintenant, qu'en est-il de vous, madame ? Croyez-vous aussi ? Je crois que vous avez dit être aussi une pure étrangère pour moi, la dame à côté. Vous avez un trouble à la tête, et vous avez un problème de la peau aussi. Si c'est juste lever votre main. Maintenant, retournez à la maison, vous êtes guéris toutes les deux. Votre foi vous a guéri. Croyez-vous que Jésus est ici ce soir ? Qu'en est-il des autres ici dans la salle ? Croyez ! Voici une femme assise ici et priant. Elle est une combattante, je la connais, mais je n'y peux rien car cette lumière est au-dessus d'elle. C'est Madame Bruce. Maintenant, Madame Bruce, je ne sais rien de ce qui ne va pas avec vous. Vous avez déjà été guéri d'un cancer, mais juste là, cette porte où je vous avais vu la première fois, vous tenant à cette porte, le Saint-Esprit m'avait dit quelque chose que seul vous et votre médecin saviez. C'est juste, n'est-ce pas ? Croyez-vous qu'il peut me dire ce qui ne va pas cette fois-ci ? Je vous connais, mais je ne sais pas ce qui ne va pas, j'en ai aucune idée, car vous avez été guéri d'un cancer. Mais je n'y peux rien, cette lumière se tient au-dessus de vous, elle se tient juste là. Maintenant, je vois apparaître quelqu'un, ce n'est pas vous. C'est pour quelqu'un qui a le cancer. C'est tout à fait juste. Aussi, je vois une femme ou quelque chose, elle doit être, elle est une pécheresse ou une habitude quelconque de boire ou quelque chose. Et vous avez deux mouchoirs sur vous afin que j'impose les mains dessus pour leur délivrance. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est tout à fait juste. Maintenant, vous êtes le juge. Est-ce exact ? Si c'est exact, levez votre main. Quelqu'un là au fond que je ne connais pas. Levez la main, quelqu'un que je ne connais pas. Ici, voilà ce que c'est. Levez la main, à nouveau là dans le coin. Il y a 4 ou 5 femmes d'assises là. Croyez-vous que je sois son serviteur ? Croyez-vous que ce que vous voyez est opéré par l'Esprit de Dieu ? Vous le croyez ? Si vous pouvez croire, la femme qui est assise et qui me regarde, celle qui porte un petit chapeau, des lunettes, des pendants blancs, oui, ce n'est pas pour vous-même, c'est pour quelqu'un d'autre. Et ils sont dans une condition sérieuse. C'est une hémorragie interne. Ils sont à l'hôpital. Cet hôpital est à New Albany. C'est la vérité. Ainsi dit le Saint-Esprit. La jeune femme, vous avez levé la main, la femme de l'autre côté, me regardant comme cela. Vous me croyez ? Vous avez un désir à cœur. Croyez-vous que Dieu peut me le révéler ? Très bien. Vous aussi, vous priez pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a une cataracte aux yeux. Vous craignez qu'elle ne devienne aveugle, c'est vrai. Maintenant, si vous croyez pour elle, elle ne deviendra pas aveugle. Si vous croyez. La femme tout au fond de la rangée derrière elle, la femme a levé sa main. Vous souffrez d'une condition nerveuse, c'est juste. Votre nervosité se situe au niveau de votre gorge. C'est exact, n'est-ce pas? Levez la main si ces choses sont ainsi. Vous, la femme là à qui je parle, très bien. Ai-je dit juste? Quelle était l'autre femme? Vous. Vous avez aussi levé votre main, sœur, là-bas. Levez la main, là, la personne qui est âgée. Très bien. Vous avez le rhumatisme pour lequel vous voudriez que l'on prie. C'est juste, n'est-ce pas? Levez la main. Vous croyez? Quelqu'un à l'arrière de l'église. Croyez. Ayez foi. Je vois une femme qui me regarde fixement entre deux autres femmes, juste là. Elle tient son doigt sur sa bouche. Elle est due pour une opération de l'appendice. C'est la stricte vérité. Si c'est juste, levez la main, madame. La voilà. Croyez-vous? Qu'est-ce que c'est? C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Croyez-vous de tout votre cœur? Un tout petit moment, sœur. Être comme Jésus. Être comme Jésus. Sur la terre, il me tarde d'être comme lui. À travers le voyage de la vie, de la terre à la gloire, je ne demande qu'à être comme lui. Pouvez-vous voir la noirceur de l'Église d'aujourd'hui? Qu'est-il arrivé au jour du Seigneur Jésus quand ceci s'est passé? Cette femme fut si transportée qu'elle en oublia son pot d'eau pour courir au village. Elle dit, le Messie est là. Mais de nos jours, oui, vous n'avez pas encore assez imploré à l'autel pour recevoir la nouvelle naissance. Il y a quelque chose de faux quelque part. Cela enverrait le Saint-Esprit dans ce lieu ici, qui enverrait un réveil, la réflexion de Jésus-Christ, son image conforme ici, se déplaçant parmi les gens pour le faire. Qu'arrive-t-il? Il y a quelque chose qui manque. Nous avons besoin d'un réveil. Combien d'autres sont malades? Levez la main à ceux qui sont malades et dans le besoin. Imposez-vous les mains les uns aux autres. Prions. Imposez-vous les mains tout de suite. Soyez prêts à recevoir votre guérison. Si vous croyez de tout votre cœur, vous pouvez être guéri tout de suite. J'ai été surpris, nous parlions d'une femme, d'une naissance. Je n'avais encore jamais eu de ma vie de femme que je connaisse qui se soit avancée à la plateforme désirant un enfant. Qu'en sera-t-il si je peux voir cela lui arriver? Son ardent désir demande la bonne chose. J'ai dit, femme, vous désirez un bébé? Elle a dit, oui, frère Branham. Je connais une femme de 49 ans qui a un petit garçon maintenant. Elle vécut avec son homme toute sa vie depuis l'âge de 16 ans environ. Elle en avait 49, lui 50 et quelques. Aussitôt qu'il lui dit, ainsi dit le Seigneur, c'est bien, vous aurez ce bébé. Elle s'en retourna et alla acheter des vêtements pour le bébé. 3 ans plus tard, maintenant âgée de 52 ans, elle donna naissance à ce petit garçon qu'elle avait tant désiré. Pourquoi? Quand elle entendit la parole être prononcée, elle sut que cela devait arriver. Qu'est-ce que cela fit? Cela lui fit prendre la bonne attitude. Le Saint-Esprit est si bon de venir prononcer ces choses aux gens. Si vous prenez la bonne attitude maintenant, la guérison est assurée. Ô Seigneur, tu es Dieu à jamais. Et nous sommes heureux de savoir que tu as promis que tu aurais un reste quand tu reviendrais sur la terre, en dépit de tout ce qui peut se passer. Il y aura des gens qui vont être prêts. Je sais qu'il y a une dîme que l'homme donne à Dieu, et il y a une dîme parmi les gens, peut-être, dirais-je, un dixième de toute la moisson du monde à travers les âges sera cet élu qui a été appelé. Ô Père, nous prions, comme nous travaillons tous ensemble ici, que nous fouillerons la ville, essayant d'amener les pécheurs, essayant de faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Dans la ville, nous voyons l'indifférence, nous la voyons. Tout comme Lot à Sodome, cela vexe nos âmes journellement de voir les femmes fumer des cigarettes et prétendre être chrétiennes, et boire et se saouler et porter des vêtements immoraux, et les hommes convoitent, et oh, le péché de Sodome! Nos cœurs sont attristés au-dedans de nous, Seigneur. Pas étonnant que la foi en soit son plus bas. Quand des gens comme ceux-là manquent du sang de Jésus qui sanctifierait leurs âmes et les enflammerait pour Dieu, cependant ils ne le recevront pas. et les petites missions du coin de la rue, battant du tambourin et des tambours, et eux, ils se rient et se moquent de nous, de ce qui forme pourtant des saints du Dieu vivant. Oh, comme nous te remercions, Père, pour ces quelques lieux, quelque part, qui prêcheront l'Évangile, qui tendront la main aux gens. Accorde-le, Seigneur, à l'instant comme nous prions, et savons que ton grand Saint-Esprit et les anges sont à leur position ici dans cette Église. Dieu, pardonne-nous nos péchés. Il y a beaucoup de gens qui sont malades ici ce soir. Tu t'es déclaré être ici, Seigneur, à travers tes serviteurs. Beaucoup d'entre eux tiraient, appelaient, suppliaient. Et Seigneur, tu sais être le seul à pouvoir permettre que ces choses soient faites. Tu es Dieu et Dieu seul. Et tu le fais pour la simple raison que tu as promis que tu le ferais. C'est le dernier signe que tu as donné aux églises. La fin des temps est ici. Ensuite, tu poses cette question. Trouverai-je la foi quand je viendrai sur la terre? Tu n'as jamais dit, trouverai-je des membres d'église? Trouverai-je des credos? Trouverai-je la sincérité? Tu as dit, trouverai-je la foi quand je viendrai sur la terre? Seigneur, puisse la foi de ces malades être libérée. Éloignez-vous des frustrations, des doutes et des craintes. Puisse leur foi être libérée à l'instant, et s'ils se servent de leur foi, la maladie devra abandonner son emprise. Le diable renoncera à son espérance, et ils seront rendus libres par la puissance du Dieu Tout-Puissant. Puisse le Saint-Esprit sonder chaque cœur, baptiser chaque âme et guérir tous ceux qui sont en ta divine présence. Accorde-le, Seigneur. Car en ceci, je demande que le diable se retire de chaque personne ici qui est tourmentée. Dans le nom de Jésus-Christ, Satan, retire-toi de ces gens. En tant que serviteur de Dieu, j'implore pour eux, demandant que la miséricorde leur soit accordée. Amen. Combien croient de tout leur cœur, avec tout ce qui est en eux, que Jésus-Christ est en train de se refléter sur la terre parmi son peuple? L'aimez-vous? Là, chantons ce vieux cantique, « je l'aime, parce qu'il m'a aimé le premier. » Tous ensemble, pendant que nous serons debout, chacun maintenant, tous ensemble, combien le connaissent? Levez vos mains, je l'aime. Adorons-le maintenant, tous les malades, tous les affligés, levez-vous sur vos pieds, recevez votre guérison. Je crois, et de tout mon cœur, que si vous laissez votre foi agir tout de suite, le Christ de Dieu qui est présent va, qu'est-il en train de faire? Nous façonner à son image, voyez? Son esprit ici, se reflétant lui-même sur vous. Vous savez cela, n'est-ce pas? Ces gens, peu importe qui ils étaient, ils ont levé leurs mains pour témoigner qu'ils ne me connaissaient pas, et j'ai levé ma main pour témoigner que je ne les connaissais pas, mais Dieu les connaît. Qu'est-ce donc? Le Christ se reflétant lui-même. C'est à votre foi d'y croire. C'est ma foi à travers un ministère qu'il m'a confirmé par un ange, dont la photographie que vous voyez est exposée dans la salle des arts religieux et connue dans le monde entier. C'est connu. La colonne de feu qui conduisit les enfants d'Israël, quand il fut fait chair, il était dans une forme appelée le Fils de Dieu. Il dit, « Je viens de Dieu et je retourne à Dieu ». Après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, Paul le rencontra sur le chemin de Damas dans la forme d'une colonne de feu et d'une lumière qui le rendit aveugle. Paul dit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Il répondit, « Je suis Jésus. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Jésus dit, « Encore un peu de temps et le monde, cosmos, l'ordre du monde, les membres d'église, ainsi de suite, ne me verront plus, mais vous, vous me verrez, car je... » pronom personnel, je, le même Jésus, serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Et les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. De plus grandes ferez-vous, car je m'en vais au Père. Amen. Oh, je l'aime, parce qu'il m'a aimé le premier et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Oh, tandis que nous chantons cela à nouveau, je veux que les méthodistes, et les baptistes, et les pentecôtistes, et les nazaréens, et les pèlerins de la sainteté, l'Église de Dieu, vous tous ensemble, je veux que vous donniez la main à ceux qui sont devant vous, et derrière vous, et à vos côtés, pendant que nous chanterons tous ensemble. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Voici l'ordre de la résurrection. Nous les vivants qui serons restés, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car la trompette de Dieu retentira et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux. Pour se rencontrer tous ensemble, avant de le rencontrer, nous nous rencontrerons avant que nous le rencontrions, serons tous ensemble enlevés sur des nuées avec lui, avec eux, à la rencontre du Seigneur dans les airs, tous ensemble. Donc saluons-nous les uns les autres, donnons-nous la main, saluons-le maintenant. Je l'aime, parce qu'il m'a aimé le premier et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Une jeune femme est sortie de la ligne, est venue s'agenouiller à l'autel, sanglotant et pleurant. Y en aurait-il d'autres ici qui sentent la même conviction, qui aimeraient s'agenouiller avec elle? Il nous ferait plaisir que vous veniez ici et preniez une place. Que Dieu te bénisse, frère. Quelqu'un d'autre voudrait venir? C'est bien. Je l'aime, parce qu'il m'a aimé le premier, et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Oh, n'est-il pas merveilleux? Cher Seigneur, tu connais cette jeune femme, moi pas, mais il est une chose étrange qui l'a frappée tout à l'heure, qui a fait qu'elle est sortie de l'auditoire sans la persuasion d'aucun. C'était toi, Seigneur. Elle s'est agenouillée à l'autel, pendant que les bien-aimés sont à ses côtés avec leurs bras autour d'elle, demandant pour elle la miséricorde et la conduite et la force spirituelle. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Il est écrit, qu'il en soit ainsi. Tu ne retiendras aucune bonne chose pour ceux qui marchent droitement avec toi. Tes promesses sont oui et amen à tous ceux qui t'aiment et qui te suivront. Puisse la jeune femme savoir définitivement ce soir qu'il n'y a rien dans le ciel qui soit promis dans la parole de Dieu, que Dieu ne soit plus que désireux de déverser directement à son cœur à cette heure même. Puisse-t-il y avoir une telle portion satisfaisante qui lui soit donnée pendant qu'elle est agenouillée, inclinée à l'autel? Puisse le Saint-Esprit lui donner ces choses souhaitables à son cœur. Accorde-le, Seigneur, car nous le demandons au nom de Jésus. Tandis que ces personnes se consacrent au Seigneur, tandis que l'Esprit se meut dans la salle, pourriez-vous rester tranquille juste un instant? Le pasteur s'occupe de ceux qui sont à l'autel. Restons en prière juste un moment. Il les accompagne, chantons pendant qu'ils parlent à chacun d'eux, courbons la tête afin de prier. Je l'aime, parce qu'il m'a aimé le premier et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Je peux, je veux, et oui je crois, je peux, je veux, et oui je crois, je peux, je veux, et oui je crois, que Jésus m'a sauvé. Je le prendrai à sa parole, je le prendrai à sa parole, il m'a donné mon salut gratuitement, et je le prendrai à sa parole. Regarde ici, jeune homme, tu veux une marche profonde avec Dieu? Crois-tu qu'il te l'accordera? Oui. Si tu crois de tout ton cœur, tu peux l'avoir. Y crois-tu? Tous ceux qui l'aiment, levez la main, dites, je l'aime avec tout ce qui est en moi. N'est-il pas merveilleux? Pendant que nous avons notre tête inclinée pour la prière de fermeture, rappelons-nous du service de demain soir. Je vais vous demander, si vous le voulez, aussi vite que possible, chacun de ceux qui ont levé la main pour son salut, une marche plus étroite, de croire que vous l'avez. Si vous ne pouvez le sentir, prenez l'enfant adoptif, voyez. Continuez à dire que vous l'avez jusqu'à ce que cela devienne une réalité. Vous qui avez accepté la guérison et qui ne vous sentez pas mieux, vous dites, ma foi n'est pas suffisante pour déplacer cela à l'instant, frère Branham. Prenez la façon de l'enfant adoptif, continuez de dire, Seigneur, je suis guéri, je le crois. Ça viendra, ça ne fera que vous placer dans la bonne atmosphère, vous voyez. Et ensuite, votre foi sera à point, elle s'en emparera. Croyez seulement de tout votre cœur. Demain soir, le service commencera à 7h30, heure régulière, ainsi que tous les soirs de cette semaine. Rendez-vous, écoutez frère Neville et ses autres ministres, et tous ensemble pour susciter un réveil. Dieu vous bénisse. On ne peut le susciter, on doit l'amener avec nous par la prière. Venez, faites acte de présence. Que Dieu soit avec vous. Maintenant, j'aimerais que vous quittiez les lieux le plus vite possible après la prière de fermeture. Nous avons à peu près une demi-heure de répétition et quelques hommes y travaillent. On va maintenant courber la tête et je crois avoir entendu frère Junie Jackson à l'arrière. Frère Junior, êtes-vous ici ce soir? Le frère de l'église méthodiste de New Albany? Très bien. Frère Jackson, voudriez-vous terminer dans un mot de prière?